Ou à Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Morgan Guerrier, Eric Manilakis en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du vendredi 4 novembre 2016. Au sommaire ce soir.
Le Bénin, Sébastien Adjavon, comparaît ce vendredi devant un tribunal de Cotonou. On rappelle que 18 kilos de drogue ont été découverts dans un conteneur destiné à sa société.
Catastrophe ferroviaire au Cameroun, 28 victimes ont porté plainte contre la compagnie Caramail, propriété du groupe français Bolloré, pour défaillance et négligence.
Tunisie, le ministre des Affaires religieuses a été limogé pour avoir lié le wahhabisme saoudien au terrorisme.
En Jordanie, 3 instructeurs américains ont été tués dans un échange de tirs avec des militaires locaux dans le sud du pays.
L'économie et les sports, juste après le journal. Le roi du poulet jugé en comparution immédiate au Bénin, Sébastien Adjavon, homme d'affaires franco-béninois, a été interpellé il y a une semaine dans une affaire de trafic de drogue présumée. Il est arrivé troisième avec 22% des voix au premier tour de l'élection présidentielle de mars au Bénin. De Cotonou, on fait le point avec Ginette Floradande.
C'est un peu avant 8h du matin, heure de Cotonou, que le cortège des prévenus s'ébranla de la brigade territoriale de Cotonou pour le paquet pour une audition attendue de plein pied par les Béninois pressés de connaître l'issue de cette affaire qui, semble-t-il, prend la priorité des préoccupations. C'est un collège de 26 avocats pour défendre le roi de la volaille, Sébastien Adjavon et ses 3 agents. La partie civile est représentée par Maître Charles Badou, avocat à la cour, le ministère public, représenté par Badirou Lawani, procureur de la République. Après lecture du chef d'accusation, un à un, les prévenus sont montés à la barre pour se prononcer. Sébastien Adjavon se déclare non coupable et affirme n'avoir eu en aucun cas connaissance du contenu de la marchandise en provenance du Brésil. À l'heure actuelle, les auditions des différents acteurs impliqués se poursuivent pendant qu'au dehors, devant le tribunal, les curieux sympathisants syndicalistes attendent de connaître le verdict de cette audition qui, selon certains, a trop duré. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Au Cameroun, 28 victimes de la catastrophe ferroviaire qui a fait près de 80 morts fin octobre ont porté plainte contre les dirigeants de la compagnie Caramail, propriété du groupe français Bolloré, pour défaillance et négligence. Les précisions de John Lyndon.
L'information a été rendue publique ce vendredi par leur avocat. Nous avons porté plainte auprès du parquet des tribunaux de première et grande instance des ECA, ville du centre du pays où le déraillement s'est produit, a affirmé Maître Guy-Olivier Modeng, membre d'un collectif d'avocats créé pour défendre les intérêts des victimes de l'accident. Le train bondé de voyageurs a déraillé le 21 octobre à Ezeka, quelques heures après son départ de Yaoundé pour Douala. Au moins 79 personnes sont mortes et près de 600 autres ont été blessées. La plainte vise Camrail, ses dirigeants et le conducteur du train, a détaillé l'avocat. Camrail est détenu à 77,4% par le groupe Bolloré. Dans la plainte, nous pointons des négligences, des défaillances, notamment sur le système de freinage du train et des omissions de porter secours aux accidentés, a poursuivi l'avocat. Une information judiciaire devrait être ouverte à la suite d'une enquête et ce n'est qu'au terme de ces procédures que le parquet des ECA dira si un procès sera ouvert ou non.
Au Gabon, un journal proche de l'opposition a annoncé qu'une de ses rédactrices, Raissa Oyaseko, avait été interpellée, rejoignant en garde à vue une dizaine de salariés interpellés la veille. Les autorités reprochent aux Échos du Nord la propagation de fausses nouvelles.
République démocratique du Congo, l'ONU appelle le pouvoir et l'opposition à la retenue à la veille d'une manifestation d'opposition interdite par les autorités de Kinshasa. Le rassemblement et une coalition réunie autour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi a appelé à l'organisation d'un meeting populaire sur les enjeux politiques de l'heure, samedi à Kinshasa, non loin du Parlement.
Début ce vendredi de la campagne pour les élections municipales du 20 novembre au Mali. L'ambiance est morose et selon l'AFP, à Bamako, aucune affiche n'était visible sur les principales artères. C'est le premier scrutin dans le pays depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2013. Issaga Campo est le premier vice-président de la CENI, la commission électorale.
Les élections communales dont la campagne a été ouverte ce matin ont été programmées depuis longtemps, depuis 2014. Mais à cause de l'insécurité qui vit au centre et au nord, les élections n'ont pas pu se tenir. Mais aujourd'hui, la campagne qui est ouverte, les élections vont se tenir sur l'ensemble du territoire, à part la région de Menaka. Toutes les régions ont déposé les listes de candidatures. Et la CENI est en train de s'activer pour aller superviser ces élections partout où il y aura un bureau de vote.
Pourquoi la région de Menaka fait exception?
Bon, on n'a pas de réponse parce que les partis politiques n'ont pas introduit de liste là-bas. C'est-à-dire qu'au niveau de la CENI, nous, on n'a pas de réponse, mais c'est le gouvernement qui peut donner une réponse. L'ensemble des partis politiques et des candidats, au niveau de toutes les régions où les listes sont déposées, sont activées pour déposer les listes. Et nous comptons également sur la force Barkhane, les forces de l'aménagement et les forces de l'armée malienne pour pouvoir sécuriser les scrutins.
Issaga Campo, premier vice-président de la CENI. La commission électorale a noté que plus de 7,2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner les quelques 12 000 conseillers municipaux des 703 communes du Mali.
Dans le nord du Nigeria, le tribunal de Kano a ordonné la libération de 5 musulmans accusés d'avoir tué une chrétienne de 74 ans, qu'ils accusaient de blasphème contre le prophète Mahomet.
Le ministre tunisien des Affaires religieuses, Abdeljalil Ben Salem, a été limogé aujourd'hui pour atteinte aux fondements de la diplomatie tunisienne, après avoir établi un lien entre le wahhabisme saoudien et le terrorisme. Arzouma Compaoré.
J'ai dit aux Saoudiens avec audace, réformez votre école car le terrorisme historiquement vient de là. Je vous dis cela avec amour et modestie. Ce sont là quelques-uns des propos ayant entraîné le licenciement du ministre des Affaires religieuses Abdeljalil Ben Salem qui répondait à un député du Front populaire sur sa volonté de combattre la propagande wahhabite en Tunisie. Des propos jugés contraires aux fondamentaux et principes de la diplomatie tunisienne a indiqué un communiqué de la présidence du gouvernement. Plusieurs quotidiens tunisiens ont toutefois consacré leur une vendredi sur ces déclarations contre le wahhabisme saoudien, une des versions les plus rigoristes de l'islam. La lutte contre l'extrémisme religieux est l'une des priorités de la Tunisie, qui a connu, après sa révolution de 2011, l'émergence d'une mouvance djihadiste responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats, policiers, mais aussi de civils et de touristes étrangers. Le pays compte des milliers de ressortissants dans les rangs d'organisations telles que le groupe extrémiste État islamique en Irak, en Syrie et en Libye voisine.
Égypte, un juge a échappé à l'explosion d'une voiture piégée au Caire, d'après la police. Il est en charge d'un des procès de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Trois instructeurs américains ont été tués aujourd'hui dans un échange de tirs avec des militaires jordaniens à l'entrée d'une base militaire aérienne dans le sud du royaume. C'est ce que rapporte un communiqué de la défense américaine, Salwa Jafari.
L'incident a eu lieu à l'entrée de la base du prince Faisal alors que les formateurs tentaient d'entrer dans la base selon un communiqué du gouvernement jordanien. Dans une première version, l'armée avait rapporté que les formateurs américains avaient ignoré les ordres des gardes qui leur demandaient de s'arrêter. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et les causes de l'incident. L'ambassade des États-Unis en Jordanie a reconnu un incident de sécurité impliquant du personnel américain dans une déclaration reçue par l'AFP sans donner d'autres détails. En novembre 2015, deux formateurs américains et un sud-africain avaient été tués par un policier jordanien dans un centre d'entraînement de la police à l'est d'Amman. Cette attaque n'avait pas été revendiquée.
Des forces d'élite irakiennes ont avancé aujourd'hui dans les rues d'un quartier de l'est de Mossoul, mais se heurtaient à une forte résistance des combattants du groupe État islamique. Des colonnes de fumée noire s'élevaient de Mossoul. Les djihadistes brûlent des pneus pour gêner les frappes aériennes de la coalition internationale sous commandement américain.
En Syrie, deux soldats russes ont été légèrement blessés aujourd'hui par des tirs rebelles sur la route de Castello, au nord d'Alep. Le cessez-le-feu décidé unilatéralement par la Russie et son allié, le régime syrien, est entré en vigueur aujourd'hui à 7h GMT. Il doit expirer à 17h GMT dans la métropole divisée d'Alep.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, aujourd'hui, c'est avec Nanit Talani.
Le Soudan a augmenté les prix de l'essence et du diesel à la pompe d'environ 30% ce vendredi en raison d'une pénurie chronique de carburant causée par un manque de devises étrangères. Le ministère du Pétrole a fait passer le prix du gallon d'essence, soit un peu moins de 4 litres, de 21 à 27,5 livres soudanaises, environ 3,90 euros, et celui du diesel de 14 à 18 livres. Au Nigeria, le groupe indien Bharti Airtel, le zimbabwéen Econet Wireless et le koweïtien Zen ont conclu hier un accord visant à mettre un terme à 5 ans de procédure judiciaire et arbitrale. Zen versera à Airtel environ 129 millions de dollars pour rembourser les frais juridiques effectués par Airtel pour faire face à la réclamation du groupe Econet Wireless. Celui-ci revendiquait 5% d'Airtel, arguant que son droit de préemption en tant qu'actionnaire avait été violé lorsqu'Airtel avait racheté à Zen ses filiales africaines. La Société internationale de vidéo à la demande, VOD, a annoncé hier son extension dans 24 pays d'Afrique francophone. Les contenus audiovisuels proposés par AfoStream seront désormais accessibles dans les pays concernés. Selon un communiqué de l'agence Ecofin, le service sera disponible à partir de 500 francs CFA par jour. Dans un premier temps, l'utilisateur pourra payer son abonnement par carte bancaire, puis bientôt par des systèmes de paiement sur mobile.
On enchaîne sur les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Et suite du tour du Faso en cyclisme.
Oui, c'est l'Algérien Saïdi Nassim qui remporte cette 8e étape courue entre Bobo Dioulasso et Dedougou. L'étalon Aruna Ilboudo reste en jaune après cette étape. Pour la première fois depuis le début de la 29e édition, un coureur conserve le maillot jaune pendant 3 étapes de suite. La 9e et avant-dernière étape, demain, entre Dedougou et Koudougou, se disputera sur 131 km.
Mazembe a rendez-vous avec son destin dimanche sur sa pelouse.
Le match retour de la Coupe de la Confédération se déroulera sur la pelouse de Kamalondo à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Les corbeaux du tout-puissant Mazembe partent avec un court avantage après le match nul, un but partout obtenu en Algérie sur la pelouse de Béjaïa.
4e journée de l'Europa League.
Ça va mal pour Manchester United, battu 2-1 à Istanbul par Fenerbahçe Moussa Sow, auteur d'un but exceptionnel lors de la 4e journée du groupe A de l'Europa League. L'entraîneur José Mourinho a dû remplacer Paul Pogba, sorti du terrain en boitant dès la 30e minute de jeu. Les Red Devils occupent la 3e place du groupe à un point du duo de tête composé de Feyenoord et de Fenerbahçe. Manchester United est également en difficulté en championnat en ce début de saison. On le rappelle, 4 matchs sans victoire, dont une lourde défaite contre Chelsea, 4-0. Victoire également du Zénith Saint-Pétersbourg qui bat Dundalk 2-1. Il se qualifie pour les 16e de finale. Le carton de la soirée pour Anderlecht qui bat 6-1 Mayence. Grosse victoire également de l'Athletic Bilbao 5-1 contre Genk. Match nul 2 buts partout entre Sassuolo et le Rapid de Vienne. Et la belle victoire à l'extérieur de l'AS Rome contre l'Austria de Vienne, 4-2.
Tennis, Masters de Paris.
Le duel de cogneurs entre les deux Américains John Isner et Jack Sock a tourné à l'avantage du premier. Le géant de 2m6 l'emporte en 3-7, 7-6, 4-6, 6-4. Isner rencontrera en demi-finale le vainqueur du match entre Cilic et Djokovic.
Et puis la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Kevin Durant n'a pas fait de sentiment face à ses anciens coéquipiers d'Oklahoma City qui se sont lourdement inclinés face à Golden State 122-96. Cleveland reste la dernière équipe encore invaincue après son succès face à Boston 128-122. Sacramento battu à domicile par Orlando 94-102. Milwaukee qui s'impose sur la pelouse d'Indiana 125-107. Et puis la victoire de Denver contre Minnesota 102-99.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec, Eric Manilakidze en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, la Guinée.
Le gouvernement lutte contre le désordre citoyen en vue de changer les mentalités et les comportements. Plusieurs activités sont en cours dans tout le pays. Il s'agit notamment d'informer et sensibiliser pour développer une culture citoyenne. À Conakry, nous retrouvons Zakaria Camara.
Le constat est fait presque à tous les niveaux. L'espace public enregistre au quotidien des violations des droits par les citoyens. Siba Kone, agent de la police routière.
Les véhicules viennent de sens contraire. Les motards aussi, il y a d'autres qui ne portent pas les casques. Les taximans, ils garent mal. Si je leur dis de bien garer, de coller bien, des fois certains chauffeurs quittent derrière le volant et viennent se jeter à moi.
Les comportements peu citoyens, mais aussi le déficit du civisme font de la Guinée une société qui a besoin d'un changement profond. Khalifa Gassama Diaby, ministre guinéen de l'Unité nationale et de la citoyenneté.
Face à l'incivisme auquel est soumise la société guinéenne, cela crée un état social de tension, un système de désordre dans la société, des rapports de voisinage difficiles, les rapports entre les citoyens et la loi complexes, le rapport entre les citoyens et la puissance publique difficiles. Cela crée un environnement effectivement de crise. Quand on dit crise, c'est que la société guinéenne est effectivement malade sur ces questions précises.
Le débat est suscité, les réflexions sont permises pour doter la Guinée d'un modèle de citoyen, un modèle de société qui devra donner tout son pouvoir à la justice, comme le pense Mohamed Camara, juriste.
Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Là où il y a la limite, c'est la justice seulement qui peut marquer cette frontière-là. Et qu'en cas d'excès, que la justice puisse sanctionner des personnes à la hauteur de leur forfaiture.
C'est le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté qui organise la Semaine nationale sur le civisme et la paix. Mais il bénéficie du soutien de ses collègues, comme ici Abdul Kabele Camara, ministre guinéen de la Sécurité.
Tout le monde doit s'impliquer. Chaque Guinéen devra se lever pour poser un acte positif. Chaque Guinéen doit comprendre que la paix est la condition sine qua non pour arriver à un développement durable. Le devoir citoyen, c'est que chacun comprenne quelle est sa place dans la société.
Pour l'organisateur, la paix, la démocratie et le développement s'obtiennent dans le respect des droits et devoirs. Khalifa Gassama Diaby.
On veut des citoyens qui aient les mêmes droits, les mêmes devoirs, des citoyens qui soient basés, fondés sur le principe d'égalité, de liberté, mais aussi de responsabilité, non seulement vis-à-vis de l'État, mais aussi de la société et de chacun d'entre nous, pour que nous puissions créer un rapport civilisé dans la société et permettre à l'ensemble des acteurs de la société d'assumer leur rôle en termes de droits, mais aussi de devoirs.
Si la première édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et du civisme connaît un engouement, certains Guinéens recommandent des actions au-delà des 7 jours. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
La jeune romancière franco-marocaine Leila Slimani a remporté hier le prix Goncourt pour « Chanson douce » paru aux éditions Gaïmard. Ce roman glace le meurtre de deux jeunes enfants par leur nourrice. Le Goncourt est le plus la plus prestigieuse distinction de la littérature francophone qui récompense chaque année le meilleur roman de l'année. Anastasie Tudiech a joint en France Leila Slimani pour recueillir ses impressions.
Ah, je ne m'y attendais pas du tout. Au contraire, je m'étais vraiment... J'avais regardé les séances de cinéma, je m'étais dit, voilà, je vais au cinéma cet après-midi, comme ça, ça me changera les idées, et comme ça, je ne serai pas déçue. Donc non, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout.
Voilà, alors le téléphone sonne, vous décrochez, on vous dit que c'est vous. Qu'est-ce que vous ressentez? À qui vous pensez ou à quoi vous pensez en premier?
Oh bah, j'ai pensé tout de suite à mon mari, à ma mère, aux gens qui m'aiment et avec qui j'avais envie de partager cette joie.
Pourquoi est-ce que vous écrivez, Leïla Slimani?
Parce que ça me rend heureuse et parce que rien au monde ne me rend plus heureuse que d'écrire et parce que j'ai envie de partager beaucoup de choses avec les lecteurs parce que je pense que la littérature, c'est absolument essentiel, que c'est fondamental et que ça m'apporte énormément de joie.
Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont mis sur le chemin de l'écriture ou c'est une impulsion personnelle?
Non, c'est vraiment la lecture qui m'a mis sur le chemin de l'écriture. Je pense que je ne serais pas écrivain si je n'avais pas été la lectrice que j'ai été. C'est-à-dire une lectrice vraiment passionnée, grosse lectrice, surtout adolescente. J'ai été fascinée par la dextérité de certains écrivains, par leur capacité à parler de l'âme humaine, à la sonder. Et ça, c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'être écrivain.
Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas très lecteurs, surtout à notre ère du numérique, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les inciter à lire?
Je crois que la lecture, ça apporte, d'abord, ça apporte énormément de bonheur, de satisfaction. C'est un moment de solitude joyeuse où on est en osmose avec des personnages, avec un auteur, avec une langue surtout. Et puis, je crois que posséder la langue, s'intéresser aux mots, ça confère aussi énormément de liberté. Moins on a de mots et moins on est libre. Quand on a des mots, on a aussi un autre regard sur le monde, plus large, plus ouvert, plus épanoui. Et c'est merveilleux de s'approprier les mots, de s'y glisser, puis de ressentir le plaisir que procure la langue.
L'écrivaine Leïla Slimani en France.
Le tout premier accord engageant le monde entier contre le réchauffement doit entrer symboliquement en vigueur ce vendredi. Moins d'un an après son adoption, il restera du chemin pour le faire appliquer, à commencer par la COP22 qui débute lundi à Marrakech au Maroc. Un rapport de l'ONU a rappelé hier le retard pris et l'urgence à agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en vue d'éviter une tragédie. Nathalie Barche a contacté à Agadir la responsable de projet de Surfeder, Fondation Maroc, Elsa Goerlinger, exposant ses attentes sur la COP22.
On a des attentes, notamment concernant les discussions politiques et aussi, bien sûr, sur l'impact médiatique de cette organisation, parce que c'est un événement très, très important qui a lieu au Maroc. Et justement, pour nous, c'est une occasion de sensibiliser un maximum de personnes. C'est-à-dire que avant tout ça, il y avait 8 personnes sur 10, disons, qui n'avaient aucune idée de ce que pouvait être la COP ou bien le changement climatique. Mmh. Et qu'avec cet événement, en fait, les gens ont été vraiment sensibilisés et ça rejoint les objectifs de notre association qui est de sensibiliser vraiment la population, les acteurs, aussi les politiques à toutes ces questions pour essayer d'avancer et de changer ensemble.
En matière d'environnement, qu'est-ce que vous préconisez notamment à travers ce forum?
La thématique qu'on a choisie pour la COP22, donc c'est en fait le lien entre l'océan et le climat. Donc, c'est-à-dire expliquer en quoi l'océan joue un rôle primordial dans toutes les questions de changement climatique, puisqu'en fait, c'est un régulateur du climat, c'est aussi une pompe à carbone. En fait, il a un rôle très, très important et qui est jusqu'à présent sous-estimé, malheureusement. Et donc, en fait, c'est de mettre en valeur cette relation entre l'océan et le changement climatique.
Quelles sont les priorités pour vous, notamment à travers le pacte de Paris?
Pour nous, il s'agit vraiment de mettre en avant des actions concrètes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, puisque c'est la COP de l'action, on parle de la COP de l'action. Qu'est-ce qu'on va faire réellement, quelles vont mettre en place les solutions dans tous les pays, quelles décisions vont être adoptées, mais surtout vont être mises en place. C'est-à-dire qu'on discute beaucoup dans ce genre d'événements et il est temps d'agir et on attend avec impatience les actions concrètes et bien sûr la participation de tous les acteurs.
Est-ce que vous pensez que l'Afrique a besoin d'une aide financière importante pour lutter contre le changement climatique, les effets de gaz à effet de serre, etc.?
Bien sûr, l'Afrique et tous les pays en développement en général ont besoin d'aide. Et cette aide-là, elle est primordiale et elle doit arriver tout de suite puisque c'est dans cette étape du développement que les choix importants se font. Le Maroc est positionné sur les énergies renouvelables et continue sur les autres voies également puisque c'est dans ces choix-là finalement qu'il s'impose comme un acteur positif pour justement et concret pour le changement climatique, pour avoir un rôle.
Voilà, c'était Elsa Gorlinger, responsable de projet de Surfrider, Fondation Maroc, une ONG spécialisée dans la protection des océans. Présidentielle américaine 2016, les deux principaux candidats sont engagés dans un marathon pour le dernier week-end de la campagne électorale. Celle-ci se déroule aussi en partie devant les tribunaux où les démocrates accusent les républicains de tentatives d'intimidation des électeurs. Le point avec Timothée Donangmaï.
Pour Hillary Clinton et ses alliés, le principal souci est de mobiliser les Africains américains. Un important bloc électoral qui semble manquer d'enthousiasme cette année alors qu'il vote traditionnellement pour les démocrates. Madame Clinton bat campagne ce vendredi en Pennsylvanie et dans le Michigan, deux bastions démocrates. S'exprimant à Greenville en Caroline du Nord, elle a accusé son adversaire Donald Trump d'encourager tacitement les suprémacistes blancs, accusation que rejette Trump. Le candidat républicain, lui, martèle la question de la crédibilité de Madame Clinton suite à la décision du FBI, la police fédérale, de rouvrir son enquête sur ses emails du temps où elle était secrétaire d'État. Cette interminable enquête empêcherait Hillary Clinton de fonctionner normalement comme présidente si elle était élue, a averti Donald Trump lors d'un meeting à Jacksonville, en Floride. Démocrates et républicains ont déployé tout ce qu'ils comptent comme personnel, volontaire et partisan dans cette dernière ligne droite de la campagne.
Par ailleurs, les deux camps se font face ce vendredi devant le juge fédéral de l'État du New Jersey, les démocrates accusant le camp de Donald Trump de coordonner avec le Parti républicain une campagne d'intimidation des électeurs, Tim.
En plus de cette plainte au niveau fédéral, les démocrates ont aussi initié des actions judiciaires similaires dans quatre États. Ils soutiennent que Donald Trump a exhorté ses partisans à se mobiliser pour confronter et intimider les électeurs au jour du scrutin, notamment ceux issus des minorités. Le candidat républicain a effectivement appelé ses militants à agir comme observateurs électoraux dans certains endroits pour, dit-il, prévenir la fraude électorale. Mais les républicains rejettent catégoriquement l'idée qu'ils chercheraient à décourager les électeurs. Jeudi, un juge du Nevada a déclaré n'avoir vu aucune preuve de cette accusation.
À propos des minorités, le candidat démocrate à la vice-présidence Tim Kaine a prononcé entièrement en espagnol un discours à Phoenix, dans l'Arizona.
Le sénateur Kaine a appris l'espagnol en tant que jeune missionnaire au Honduras. Jeudi, devant un public majoritairement hispanique, il a parlé de la situation économique du pays, mais aussi de la réforme de l'immigration, un sujet qui touche particulièrement cette communauté. Pour l'agence Associated Press, c'est probablement le premier discours électoral entièrement prononcé en espagnol par un candidat à la présidence ou à la vice-présidence américaine.
Merci Tim.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnot a dirigé la mise en onde. Morgane Guiriec et Eric Manirakiza à la présentation.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Nous avons atteint la barre des 2 millions. On maintient la conversation. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.